Géraldine Mosselin, vous êtes directrice du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Bonjour.
Bonjour.
On va d'abord peut-être rappeler aux auditeurs, auditrices de Radio Royan-Vercors, quel est ce musée et qu'est-ce qu'il contient ?
Alors, c'est un musée départemental. C'est l'un des 11 musées du réseau des musées du département de l'Isère, gratuit pour tous. C'est un musée d'art et d'histoire, en premier lieu, et qui est intimement lié à l'histoire du site abbatial et des hospitaliers de Saint-Antoine. Donc, c'est ce sur quoi nous travaillons chaque année, à travers les expositions temporaires, d'une part, et qui collent au plus près, justement, de cette histoire, bientôt millénaire, mais aussi en conviant des artistes contemporains, de la danse aussi contemporaine, enfin d'autres esthétiques qui permettent de mettre en relief et d'entrer en résonance avec cette histoire.
Est-ce que c'est un musée qui est implanté ici à Saint-Antoine depuis longtemps ?
Alors, c'est un musée, oui, qui est implanté, qui est né à Saint-Antoine-l'Abbaye, dirais-je, il y a fort longtemps. Donc, initialement, une donation a été faite au département d'œuvres donc de Jean Vinet, qui est un artiste que les locaux connaissent bien. Il est né à Saint-Marcellin en 1907, il est mort à l'Albinque en 1978. Et sa veuve, Renée, a fait don au département d'une collection insigne donc d'œuvres de son défunt époux. C'est ainsi que le musée a vu le jour, mais à partir des années 90, il a été décidé, donc le département de l'Isère a décidé de donner un nouvel élan à ce musée et de faire en sorte qu'il devienne un musée de site vraiment intimement lié à l'histoire et bien du site qui lui sert d'écrin.
Pour cette année 2026, il y a une exposition temporaire qui est mise en place du 5 juillet au 8 novembre 2026 et qui s'inscrit dans un dispositif plus large au niveau du département de l'Isère, il me semble.
Oui, tout à fait. Alors, le département de l'Isère, depuis quelques années déjà, imagine des saisons culturelles, un peu sous forme de biennale, puisque ça revient à peu près tous les deux ans. Donc, il y a eu paysage, il y a eu la forêt aussi. Déshabillez-nous en 2024. Donc, nous y avions participé à travers l'exposition sur un fil ou l'art de se vêtir au Moyen-Âge. Et puis donc cette année et jusqu'en septembre 2027, c'est toute une saison consacrée à l'eau sous des angles très divers en fonction bien évidemment des musées qui sont associés, pas seulement départementaux d'ailleurs, ou des événements ou des artistes associés dans des lieux insignes du patrimoine isérois. Et donc, quelle histoire raconte effectivement l'épopée de l'eau à travers le temps, les âges et aussi les civilisations quelque part. Cette question de l'eau a toujours préoccupé les hommes et depuis l'Antiquité, parce que l'eau, c'est la vie, indéniablement. Et on le voit très bien, en tout cas au Moyen-Âge. Alors, il y a des récits bibliques qui en parlent de manière très poétique et très belle. L'eau, source de vie, l'eau qui régénère, l'eau aussi pour les chrétiens, c'est le baptême, c'est associé au baptême, et c'est un rite très très fort d'ailleurs. Voilà, donc c'était une question qui a toujours préoccupé les hommes, et depuis des temps immémoriaux, voilà, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, tout simplement.
Entre fleuve et mer, une histoire médiévale, c'est donc cette exposition temporaire qui a lieu du 5 juillet au 8 novembre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la couleur particulière de cette exposition ?
Oui, alors nous sommes partis en fait d'une citation que l'on doit à Pierre Delannoy, donc qui est un dominicain du XVe siècle, et qui a rédigé une vie de Saint-Antoine l'Égyptien, dont nous conservons les reliques depuis la fin du XIe siècle. Donc, Pierre Delannoy nous dit « Ils commencèrent à mener la nef par la haute mer et il advint une grande tempête ». Effectivement, lorsque les reliques d'Antoine quittent l'Égypte, et notamment Alexandrie pour rejoindre Constantinople, eh bien, une tempête va se déclencher et le naufrage n'est pas très loin. Donc, Saint-Antoine apparaît et va sauver de la noyade certaine, eh bien, tout simplement l'équipage qui arrive à bon port sur la terre ferme et qui va pouvoir poursuivre son périple avec de très très nombreux miracles. Donc en fait, la vie d'Antoine et même à travers, on va dire, la géographie, le récit qui est en effet au IVe siècle et surtout l'histoire des hospitaliers de Saint-Antoine sont finalement intimement liés à l'eau, au voyage, alors par voie fluviale, par voie maritime aussi, comme je venais de le préciser. Et les hospitaliers de Saint-Antoine, d'ailleurs, se sont, on va dire, inscrits dans une continuité malgré eux. Ils se sont en fait installés le long des grandes routes commerciales, le long du Rhône. Donc il faut savoir aussi que c'est vrai que l'abbaye de Saint-Antoine était implantée en une terre qui est un peu entre les basses et les hautes eaux du Rhône, et donc de Lyon jusqu'à Marseille en passant par Pont-Saint-Esprit, Beaucaire, Avignon bien évidemment, qui est une ville très importante pour eux-mêmes puisqu'ils ont toujours soutenu les papes en Avignon, et jusqu'à Marseille et la côte méditerranéenne. On trouve les hospitaliers de Saint-Antoine et d'autres communautés religieuses qui vont utiliser finalement le Rhône comme voie de circulation des marchandises, des hommes et des idées.
Est-ce qu'il y a des œuvres que vous avez envie de mettre en avant dans cette exposition, des choses qui vous marquent particulièrement ?
Alors, toutes les œuvres sont marquantes. On a la chance d'avoir eu des prêts de grandes institutions, de musées nationaux, de bibliothèques aussi, de musées en région. Voilà, l'œuvre la plus ancienne, c'est une fistule, c'est-à-dire un fragment en plomb d'un aqueduc romain, parce qu'il faut savoir que les aqueducs romains vont être réutilisés au Moyen-Âge pour pouvoir acheminer l'eau jusqu'au cœur des villes. Voilà, pour alimenter les fontaines, les puits, etc. Également les fossés qui entourent les villes. On le voit très bien d'ailleurs sur une gravure de 1572 que l'on doit à Braun de la ville d'Avignon. Donc ce sont des œuvres qui sont extraordinaires. C'est très difficile de faire un choix. Le Portulan. Alors le Portulan, c'est une carte marine. C'est un prêt exceptionnel de la médiathèque Simone Veil de Valenciennes dans le Nord. Le Portulan, c'est une carte marine qui a été réalisée, en tout cas pour cet exemplaire-là, sur des exemplaires assez rares hein, aujourd'hui et qui ont été conservés dans les collections publiques, en 1572 par Jaume Olives. Il réalise ce Portulan à Barcelone, qui était un grand centre de production de ce type de carte marine. Et en fait, à travers cette carte, eh bien, sont indiqués les principaux ports. Donc c'était extrêmement important pour les marins. À condition, il est vrai, d'avoir une bonne vue, parce que il veut tellement montrer de choses, etc., et montrer le monde dans son entièreté, que effectivement les ports sont indiqués, mais il fallait avoir une connaissance très fine des lieux. Il va également décrire, les dirigeants de ces différents pays. Donc là, on a ouvert pour démarrer l'exposition par le folio numéro 2, qui montre le roi de France en majesté, mais qui est dans un traitement tout à fait médiéval. Des enluminures magnifiques, pleines pages, et surtout, c'est une invitation au voyage et à l'imaginaire, puisque on y retrouve des animaux, alors des animaux qu'il a vus. C'est vrai qu'au XVIe siècle, eh bien, on est déjà allé un peu plus loin que les côtes atlantiques ou méditerranéennes, et donc on a rencontré des animaux dits exotiques que l'on avait cependant déjà vus dans certaines ménageries princières en Europe.
Une autre œuvre que vous affectionnez peut-être particulièrement ?
Alors oui, effectivement, c'est cette grande tapisserie prêtée par le Musée national du Moyen-Âge, Cluny, donc a été réalisée vraisemblablement d'après un carton d'un peintre primitif flamand, Colin de Cotter, ou en tout cas son entourage, et qui montre une scène de bataille et d'embarquement mêlés. Alors bataille tout simplement parce qu'il va mélanger des épisodes à la fois historiques. Le roi de Perse, Cambyse, 6e siècle avant notre ère, est bien présent, mais il s'affronte à un roi qui lui vient, dirais-je, de la mythologie grecque. La reine Didon, également de la mythologie grecque, qu'on retrouve dans l'œuvre de Virgile, va embarquer à bord d'un navire de haute mer, vraisemblablement une caraque. Donc c'était ces bateaux à fort tonnage et qui pouvaient affronter effectivement les océans. Puisque là, autour de 1500, on a déjà traversé l'Atlantique et rejoint les Antilles grâce à Christophe Colomb. Et donc forcément, la navigation va s'adapter, et c'est ce que l'on voit avec ces gaillards, c'est-à-dire ces ponts supérieurs extrêmement importants. Et il y a une scène aussi de naufrage en arrière-plan. C'est une scène de guerre, c'est une scène de bataille, pour rappeler aussi que le danger guettait les hommes et les femmes qui voyageaient à bord de ces bateaux, puisque effectivement, pendant longtemps, on a longé les côtes atlantiques, les mers du Ponant, on ne s'est pas trop éloigné, 40 km, c'était déjà pas mal. Et après, Christophe Colomb et d'autres ont ouvert la voie. Alors, une autre œuvre aussi qui est très intéressante et que l'on retrouve sur l'affiche de l'exposition, c'est notre délicat dragon dessiné par Pisanello. Pisanello, c'est un artiste italien, et son dessin, est extrait d'un ensemble de dessins conservés au musée du Louvre et qui a été acheté par le Louvre au XIXe siècle. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment l'artiste va s'inspirer de choses réelles, un bateau, probablement une coque quand même imposante, avec un portel ou un sabord, on passait les canons, etc., donc prévu pour la haute mer. Et puis, il y a un dragon juste en dessous, qui est cet animal effrayant, gueule ouverte, il est menaçant, mais surtout qui rappelle aussi l'imaginaire dont se nourrissaient les hommes au Moyen-Âge et encore à la Renaissance, puisque les monstres marins étaient légions. Christophe Colomb lui-même aurait vu, soi-disant, des sirènes en arrivant aux Antilles. En fait, son fils Fernand Colomb va, lorsqu'il va rédiger une sorte de biographie de son père, rappeler que c'était tout simplement des lamantins bien inoffensifs. Donc c'est dire que l'imaginaire est extrêmement fécond et que ces monstres, que ce soit les poissons-ci, que ce soit les baleines, que l'on confond aussi avec des sirènes de par leur chant, de par leur forme et tout ce que l'on veut, eh bien, ont été, on va dire, l'objet de très nombreuses œuvres, y compris sur papier ou parchemin. Et enfin, donc, d'autres œuvres, bien évidemment, parce que pour échapper au naufrage et échapper à la noyade, qui était une mort sans sépulture, une mort qui était très redoutée au Moyen-Âge, puisque les âmes étaient condamnées à errer éternellement, donc sans sépulture, comme je le disais, eh bien, nous avons des saints, des saintes, qui sont invoqués pour pouvoir se prémunir de tous ces dangers. Alors, je vais les citer comme ça, pêle-mêle, Saint-Nicolas. On a un très joli vitrail prêté par le Musée des Beaux-Arts de Dijon, où on voit un Saint-Nicolas qui arrive un peu à la rescousse pour sauver un équipage en perdition, attaqué par des démons. Également Sainte-Barbe, qui protège de la mort subite, comme Saint-Christophe, d'ailleurs, une œuvre flamande, très belle, avec ce paysage magnifique. Et puis, un petit coup de cœur, ce sont les enseignes de pèlerinage qui sont très émouvantes parce qu'en fait, elles touchent à l'intime. Elles touchent à l'histoire intime des hommes et des femmes qui partaient sur les routes, souvent au péril de leur vie, par mer, par voie de terre, par voie d'eau, et qui n'en revenaient pas, d'ailleurs. Alors, ceux qui en revenaient, qui avaient la chance d'arriver au bout du pèlerinage, eh bien, rapportaient avec eux des petites enseignes. On pourrait dire aujourd'hui des pins, mais enfin c'était quand même autre chose, quand ils se rendaient à Notre-Dame de Rocamadour, par exemple, ou encore à Notre-Dame de Boulogne, Boulogne-sur-Mer, etc., etc. Tout ça est très émouvant et fait écho à une très très belle gravure prêtée par la Bibliothèque nationale de France qui montre la ville de Rhodes. Et donc cette ville de Rhodes, eh bien, rappelle aussi la présence des hospitaliers, parce que, je le disais, ils étaient au-delà. Ils étaient en bordure de fleuve, ils étaient aussi au-delà des mers. On les trouve à Famagouste, on les trouve en Méditerranée. On les trouve à Rhodes, bien évidemment. Ils en seront chassés avec les chevaliers du même nom. Et c'est une représentation de la ville qui est servie en fait aux pèlerins, puisque c'est un ouvrage, c'est une gravure extraite d'un ouvrage intitulé « Les saintes pérégrinations en Terre sainte ». Donc, quand on n'avait pas la possibilité de se rendre en Terre Sainte, il était préférable quand même de prendre le temps d'y aller, eh bien, on pouvait au moins avoir ses ouvrages et voir à quoi ressemblait telle ou telle ville, etc. Là, on est en 1486, avant, on va dire, le dernier siège de la ville de Rhodes, qui verra en 1522 la chute définitive des chevaliers de Rhodes.
Entre fleuve et mer, une histoire médiévale, c'est donc cette exposition temporaire ici au musée de Saint-Antoine du 5 juillet au 8 novembre. Il y a aussi des choses que vous faites autour de l'exposition.
Alors oui, effectivement, il y a un certain nombre d'événements qui ont lieu autour de l'exposition en lien avec la thématique. Et simplement pour revenir sur un événement qui s'est produit donc le 4 juillet à 21h, donc c'était le concert inaugural avec les ensembles Alla Francesca et Discontus, dirigé par Brigitte Laine, et avec aussi un chœur qui a été constitué spécialement par Viviane Jégou, donc directrice de l'école de musique intercommunale. C'est un très beau partenariat, je tiens à le souligner, avec l'Interco, qui a eu lieu en fait toute l'année, puisque les élèves, donc une petite centaine quand même, des écoles de musique, ont travaillé avec Brigitte Laine, accompagnée aussi par les médiateurs du musée pour un certain nombre d'événements en classe. Et cela a donné lieu à une restitution en présence des parents, des familles, le 12 juin dernier. Et là, donc, c'est le concert aussi inaugural, d'aboutissement, et c'est vraiment très, très chouette. Et je tenais à le souligner et à remercier toutes les personnes qui se sont grandement impliquées dans ce projet. Et donc, d'autres projets, bien sûr, qui sont portés par le pôle de l'action éducative, notamment écoles et musées. Alors, c'est un dispositif que l'on conduit depuis de très nombreuses années et qui convoque, en fait, un certain nombre de classes de l'enseignement primaire du territoire autour d'une thématique, bien évidemment, en lien avec l'exposition temporaire. Raconte-moi l'eau, ça a été tout un travail conduit en classe, donc in situ également, pendant toute l'année scolaire, et qui donne lieu chaque fois à une restitution par le biais d'une exposition qui a ouvert ses portes le 20 juin et qui fermera ses portes le 20 septembre à l'issue des Journées européennes du patrimoine.